Cette dégringolade s'explique par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est déjà l'augmentation de la production de pétrole au niveau mondial, notamment avec l'offre des pétroles américains, du pétrole de schiste américain. Il faut savoir que les États-Unis ont ajouté pratiquement 4 millions de barils sur le marché pétrolier ces dernières années. Et puis de l'autre côté, vous avez la demande qui a diminué parce qu'il y a moins de croissance, notamment dans les pays émergents. Dans la zone euro, il y a un peu plus de 0% de croissance. Dans les pays émergents, il y a moins de croissance en Chine et en Inde que dans la période 2010. Et s'il y a moins de croissance, il y a moins de demande de pétrole. Il faut savoir que 1% de croissance, grosso modo 1% de demande de pétrole en plus, donc moins de croissance, moins de demande pétrolière. À cela, il faut ajouter la hausse du dollar. Et comme vous savez que le pétrole est libellé en dollars, mais acheté dans d'autres monnaies, le fait qu'il y ait une hausse du dollar rend le pétrole plus coûteux dans d'autres monnaies. Et donc, ça pèse en plus de l'absence de croissance, ça pèse en plus sur la demande de pétrole au niveau mondial. Donc, on a une suroffre, une offre supérieure à l'offre qu'on avait habituellement. On a une baisse de la demande. Et donc, vous avez les prix qui, mécaniquement, ont fortement chuté et qui ont perdu quasiment 60% depuis l'été 2014.
Alors, en réaction, le président de l'OPEP souhaite une réunion extraordinaire. Mais quelle division existe-t-il à l'intérieur de l'OPEP quant à la stratégie à tenir ?
Alors, effectivement, l'OPEP avait une stratégie entre 2000 et 2014 qui consistait à intervenir sur le marché quand le prix baissait. C'est-à-dire, quand vous aviez le prix du pétrole qui baissait, c'était le cas à la crise de 2008, hein, le prix avait fortement chuté, l'OPEP fermait ses robinets et faisait remonter le prix. Donc il intervenait sur le marché en fermant ses robinets, en mettant moins de barils de pétrole pour faire remonter les prix. Or là, surprise, l'OPEP a changé sa stratégie. Quand les prix ont commencé à chuter au dernier trimestre 2014, l'OPEP a décidé de ne pas intervenir sur le marché, de laisser chuter les prix. C'était une stratégie qui visait à casser les investissements dans les pétroles de schiste américains. Parce que aujourd'hui, le coût d'extraction du pétrole de schiste, c'est $60 aux États-Unis, 50-60 dollars, alors que le coût d'extraction des pétroles saoudiens, on est à 10-15 dollars. Donc l'Arabie Saoudite voulait faire chuter les prix pour qu'il y ait moins d'investissements dans le pétrole de schiste et que la production de ces pétroles, in fine, s'arrête. C'était sa stratégie. Le problème, c'est que là, ça fait un an qu'elle joue cette stratégie et que les prix sont extrêmement faibles et qu'il y a tout un tas de pays pétroliers de l'OPEP qui souffrent de cette baisse des prix. On pense au Venezuela, on pense à l'Algérie, à l'Angola. Tous ces pays n'ont pas les fonds souverains que peuvent avoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Koweït et le Qatar. Donc on sent bien qu'il y a une scission à l'intérieur de l'OPEP entre d'un côté des pays qui souffrent mais qui peuvent résister, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Émirats Arabes Unis, et de l'autre des pays qui souffrent mais qui ne peuvent pas résister parce qu'ils n'ont pas de fonds, et c'est le cas du Venezuela, de l'Angola et du reste de l'OPEP majoritairement. Donc effectivement, la situation devient de plus en plus tendue à l'intérieur de l'OPEP parce que qui dit baisse des prix, dit baisse des recettes budgétaires et dit grosso modo politique d'austérité majeure pour ces pays et donc tension sociale à l'intérieur de ces pays.
Est-ce que l'Arabie Saoudite pense à arrêter cette politique des prix au rabais, sachant qu'elle a enregistré un déficit record cette année ?
L'Arabie Saoudite peut tenir 3 ans dans cette situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de casse, mais elle peut tenir quand même 2 à 3 ans parce qu'elle a ce fonds souverain, c'est-à-dire cet argent de côté, 700 milliards de dollars quand même, qu'elle peut réinjecter s'il y a des tensions sociales. S'il y a des mouvements sociaux, il y a moins de redistribution parce qu'il y a moins de rente pétrolière, donc des mouvements sociaux qui se plaignent de cette manque de redistribution, elle peut aligner de l'argent, comme elle l'a fait pendant les révoltes arabes, pour calmer ces tensions sociales à l'intérieur du pays. Donc l'Arabie Saoudite peut tenir 3 ans. Donc dans son intérêt à elle, c'est que le marché se réajuste au niveau de l'offre, qu'il y ait moins d'offres et donc qu'il y ait moins d'investissements dans les pétroles de schiste ou dans d'autres pétroles non conventionnels en mer très profonde, pour qu'à terme, les prix remontent. Le Venezuela, l'Iran ou l'Angola ou l'Algérie, eux, ne peuvent pas tenir 3 ans dans cette situation. Pour la première fois, on se rend compte que les intérêts à l'intérieur de l'OPEP d'un petit groupe de pays qui sont les pays du Golfe et du reste de l'OPEP ne sont pas alignés.
Et justement, en parlant de ces tensions, est-ce que la remontée des tensions justement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite peut jouer en défaveur d'une solution de l'OPEP ?
Complètement. Les tensions géopolitiques auxquelles on assiste en ce moment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sont un facteur supplémentaire dans les tensions que l'on pourrait avoir à l'intérieur de l'OPEP. Bon, c'est des tensions qui ne datent pas d'hier, mais là, on a atteint quand même un point haut dans ces tensions qui pourraient effectivement se répercuter. Et à mon avis, les prochaines réunions de l'OPEP risquent d'être très tendues, justement à cause de ces tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Qu'est-ce qui pourrait refaire monter les cours du pétrole ? Ça serait de limiter la production des pays de l'OPEP ?
Effectivement, si là, l'OPEP intervenait sur le marché en limitant sa production, comme elle a l'habitude de le faire, c'est-à-dire qu'elle retirait 5 millions de barils, on aurait à nouveau des tensions sur les prix. C'est sûr. Aujourd'hui, on a un excédent de 2 millions de barils, à peu près. Si demain, l'OPEP retire 4 à 5 millions de barils et revient à un niveau de production même d'avant de 2008, elle revient à 24 millions de barils, donc elle retirait quand même là pratiquement 6 millions de barils. Là, effectivement, les prix remonteraient, mais le problème, c'est qu'en faisant remonter les prix, les investissements dans d'autres pétroles, notamment les pétroles de schiste, redeviendraient rentables. Et n'oublions pas que les États-Unis ont mis sur le marché 3 à 4 millions de barils en quelques années, parce que c'était rentable de le faire à ce moment-là, parce que le prix du pétrole était à 100 dollars. Si demain, on a un prix du pétrole qui remonte à 80-90 dollars, ces investissements repartent, et donc les prix remonteront pendant peut-être un an, deux ans, mais après, ils redescendraient à des niveaux un peu plus bas si la production de pétrole de schiste est aussi forte qu'elle l'a été dans les années précédentes. Mais ça, c'est pas sûr. Mais effectivement, si elle intervenait sur le marché, les prix remonteraient sur le court terme, ça c'est sûr.
Et si justement alors la production de pétrole de schiste devient plus rentable, quelle pourrait être la solution?
La solution, ce serait une compétition, comme on l'a vu, entre finalement la demande, parce qu'il y a aussi ça qu'il faut regarder du côté de la demande. La demande a été très très forte entre 2004 et 2014, on a une croissance énorme, cette croissance est moins forte, et donc ce serait une course finalement entre la production et la demande. Et c'est vrai que si demain l'OPEP coupe sa production, la production qu'elle coupe, elle risque de la donner au pétrole de schiste américain s'il se développe massivement. Et donc l'OPEP produira moins, mais la part qu'elle produit moins sera donnée aux États-Unis qui produiront plus, et les prix à terme pourraient continuer à baisser comme ça a été le cas. Et dans ce cas-là, on serait dans une situation où les Américains auraient une plus grosse part de marché et en plus un prix plus faible. Et c'était surtout pas ce qui était souhaitable par l'Arabie Saoudite au départ. Mais rien n'assure que ce soit ça, parce que les États-Unis ont produit massivement ces dernières années. Est-ce qu'ils peuvent produire encore au même rythme? Est-ce qu'ils ont les capacités territoriales, géographiques, pour pouvoir forer autant de puits qu'ils ont foré ces dernières années? Ça reste à prouver. Après, les techniques peuvent s'améliorer et ils peuvent produire plus. Et donc, on serait dans une position quand même où, sur le court terme, le prix remonterait. Mais effectivement, s'ils arrivent à faire ce qu'ils ont fait ces quatre dernières années, à terme, le prix redescendrait. Et il y aurait une plus grosse part de production pour les États-Unis.